Quatrième cours sur donner et recevoir. Je vous rappelle que ce cours, c'est vraiment pour nous montrer ce que dit la parole de Dieu entre le chrétien, la vie du chrétien et les finances. Donc c'est important puisque l'argent, c'est quelque chose que nous manipulons tous les jours, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Et il est important de savoir ce que Dieu veut exactement par rapport à nos finances, nous les chrétiens nés de nouveau. Alors je vous ai montré que l'important c'est d'abord de savoir ce que la parole de Dieu dit et non pas ce que nous pensons nous personnellement sur ce sujet. D'ailleurs sur tous les sujets, l'important c'est de changer nos mentalités et de les ajuster par rapport à la parole de Dieu et non pas d'avoir des idées préconçues. Des idées préconçues nous en avons tous et c'est normal au départ. Par contre au bout d'un certain temps, il est très important dans tous les domaines de notre vie de savoir ce que dit la parole de Dieu dans tel ou tel domaine. 3 Jean 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » On a vu qu'il y a différents types de prospérité. Nous avons vu qu'il y a la prospérité de l'esprit, c'est-à-dire la croissance spirituelle. Il y a la prospérité de l'âme qui est l'épanouissement lié donc à l'obéissance à la volonté de Dieu, à la réussite par rapport à ce que Dieu nous demande de faire et de ce que nous faisons dans nos vies. Quelqu'un qui est constamment dans l'échec ne sera jamais quelqu'un d'épanoui, c'est normal. La prospérité du corps, bonne santé et bien sûr finance. Finance étant bien sûr le sujet que nous étudions dans ce cours. Je vous ai donné la définition de la prospérité dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 et 8, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. On expliquera à propos de donner. Car Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu peut, c'est-à-dire a la capacité de vous combler, non pas de vous donner juste un petit peu. De toutes ces grâces, des faveurs imméritées donc, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, et pas seulement à quelques-uns de vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, c'est-à-dire que vous ayez la capacité aussi à pouvoir donner, à pouvoir être une bénédiction dans le royaume de Dieu. Donc je vous rappelle que la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est que d'abord, nous puissions être bien, être satisfaits dans cette vie, selon les différents domaines, dans notre vie. Il y a différentes étapes. C'est sûr que quand nous sommes adolescents ou que nous sommes enfants, nous avons des besoins qui sont moindres. Quand nous passons au stade d'étudiant, nous avons des besoins, bien sûr, supplémentaires. C'est tout à fait normal. Mais le jour où nous fondons un foyer et que nous avons de nombreux enfants, à ce moment-là, plus nous en avons, plus il faudra s'en occuper. Et pas seulement quand ils sont petits, parce que quand ils sont petits, on peut toujours les faire taire. Mais quand ils sont grands, on peut plus les faire taire. Donc, à ce moment-là, il est évident qu'il y a un moment où il y a un besoin beaucoup plus important quand vous avez des adolescents ou des presque adultes qui sont à l'université ou qui sont en train de faire leurs études donc supérieures. Surtout si vous voulez les envoyer dans les pays à droite et à gauche où la vie est extrêmement chère, il est évident que là, vous aurez besoin d'une surabondance. Donc, qu'il soit fait selon votre foi, n'est-ce pas? Et ça, il faut bien être clair là-dessus. C'est bien de s'engager dans la vie, mais il faut être aussi responsable de ce que nous faisons, parce que c'est important. Les irresponsables, nous en avons beaucoup dans ce monde, et il y en a aussi beaucoup dans le royaume de Dieu, et nous devons grandir, justement. Nous devrions être ceux qui sommes les plus sages, c'est-à-dire les plus responsables dans cette vie, et savoir mener correctement les affaires de cette vie. Malheureusement, parfois, nous ne sommes pas les meilleurs exemples. Donc, nous devons grandir, et nous devons le savoir, parce qu'il est vrai que parfois, nous manquons d'enseignement. Nous faisons des erreurs, nous ne savons pas pourquoi, nous nous retrouvons dans des situations où parfois on est complètement bloqué, où on se fait prendre tous nos biens, où on se retrouve avec des difficultés, où nous n'avons pas anticipé certaines difficultés. Et ça c'est important quand nous nous engageons d'anticiper les difficultés à l'avance, c'est-à-dire de prévoir que effectivement, si nous nous engageons dans telle ou telle chose, et quand nous voulons fonder un foyer particulièrement, nous nous engageons à beaucoup de choses, parce que fonder un foyer c'est pas 15 jours que ça dure, mais il faudra élever les enfants et il faudra qu'ils puissent être élevés correctement pour qu'ils puissent avoir la meilleure éducation possible et qu'ils puissent eux-mêmes dans la vie réussir, leur donner les meilleures chances. Si c'est pas votre objectif, à ce moment-là, le mieux c'est de ne pas se marier et de ne pas engager la vie d'innocents, dirions-nous, qui n'ont pas voulu naître sur cette terre, n'est-ce pas? Nous sommes responsables. Alors, la prospérité, on a vu que aussi, bien sûr, Dieu veut pourvoir et vraiment, il va y avoir une question de foi, il va y avoir une question aussi de savoir quoi faire avec les choses de cette vie. À côté de ça, il y a bien évidemment la responsabilité à financer le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas donner quelque chose que nous n'avons pas. Si tu n'as pas ce qu'il faut pour vivre, tu ne peux pas t'en sortir. Comment est-ce que tu pourras être une bénédiction pour le royaume de Dieu? Et c'est pour ça d'ailleurs que le diable essaye de tenir les enfants de Dieu dans la pauvreté, parce qu'il sait très bien que si les chrétiens deviennent riches, et qu'ils sont prospères et qu'ils sont en même temps mûrs spirituellement, eh bien, à ce moment-là, ils vont être une telle bénédiction dans le royaume de Dieu que son royaume, lui, va en prendre un sacré coup. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les religions chrétiennes, vous verrez souvent que la pauvreté est mise en avant, que le projecteur du monde par rapport au christianisme est toujours d'amener les bonnes œuvres et des gens qui ne possèdent rien, qui n'ont rien et qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider les pauvres main à la main, c'est-à-dire d'essayer de donner à droite, à gauche. Oui, c'est bien, mais Dieu nous appelle aussi à prospérer, parce que si c'est les organisations humanitaires ou les États qui donnent aux églises pour que les églises redistribuent aux pauvres, je trouve ça malheureux, et c'est pas normal d'ailleurs, c'est pas du tout normal. Nous avons un rôle en tant qu'église, nous en parlerons un peu plus tard à propos de comment aider efficacement des gens, des chrétiens qui sont dans l'église, qui sont pauvres, et les aider dans la mesure où nous pouvons le faire. Mais nous avons un rôle à jouer, puisque la Bible nous dit aussi de donner aux pauvres, mais là aussi il faut pas faire n'importe quoi. Alors, définition donc de la prospérité, c'est d'avoir tout ce dont nous avons besoin dans le temps où nous en avons besoin, dans tous les domaines, donc logement, vêtements, moyens de transport, etc. Et avoir la capacité à donner. Prospérer, c'est avancer, avoir assez, avoir du succès, réussir, être dans l'abondance. La pauvreté, c'est le manque, la destitution, l'insuffisance, etc., etc. Enfin, tout ce qui, en fait, fait de l'homme, réduit l'homme à un animal, plus ou moins. C'est à peu près ça. Nous avions déjà vu un des noms de Dieu, qui est El Shaddai. Et je vous rappelle que El Shaddai veut dire... Ça a une signification assez proche d'une maman qui nourrit, qui pourvoit, qui fortifie, qui satisfait, qui est tout suffisant, c'est-à-dire qui s'occupe clairement de son enfant, et son enfant se sent bien à ce moment-là dans les mains de cette maman. Alors, nous en sommes arrêtés là, je crois. Maintenant, nous voyons un autre nom aussi de Dieu qui est Yahvé ou Jéhovah Jiré. Yahvé ou Jéhovah Jiré. Yahvé ou Jéhovah Jiré. Jiré, c'est J-I-R-E. Ou R-E, Jéhovah Jiré, Yahvé Jiré. On avait déjà vu ce nom, je vous le rappelle, dans Doctrine de base numéro 1, sur la doctrine de Dieu. Et c'est Dieu qui se révèle dans Genèse, chapitre 22, verset 14. Genèse 22, 14. Dieu va se révéler comme Jéhovah Jiré à Abraham. Genèse 22, 14, c'est là où Abraham devait donner son fils en sacrifice. C'était une épreuve de Dieu, c'était pour voir si Abraham allait être obéissant et jusqu'à quel point, à quel niveau l'obéissance d'Abraham irait. Et Dieu va le mettre au test, à l'épreuve. Il est dit, Genèse 22, 14, Abraham donna à cet endroit le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu. Alors en fait, c'est le Dieu de la provision. Et dans ce mot provision, le mot est intéressant. Le mot est intéressant parce que dans le mot provision veut dire voir un besoin à l'avance. Voir un besoin à l'avance. Voir un besoin à l'avance. Vous savez, parfois les chrétiens sont surpris par un certain nombre de besoins. Et ils vont vers le Seigneur en disant, Seigneur, tu vois pas dans quelle situation je suis. Et Dieu dit, mais je sais déjà depuis longtemps. Je sais déjà depuis longtemps. Dieu est le Dieu qui connaît nos besoins et qui voit nos besoins à l'avance. Et ça, c'est important. Il y a vraiment un temps de méditation là-dessus à faire. Dieu est celui qui connaît et qui voit tes besoins à l'avance, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, il connaît tes besoins à l'avance. Si tu as la foi, tu peux entrer justement dans cette provision. Mais Dieu, lui, il n'y a pas de problème, il connaît tout ça. Il y a trop de gens qui racontent leurs histoires à Dieu. Qui racontent, tu vois, Seigneur, j'ai eu ça, et tu vois l'accident que j'ai eu, Seigneur, et quand j'ai eu cet accident, tu vois, Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a volé, Seigneur, et tu sais combien il m'a volé, Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur connaît toutes choses. Il voit à l'avance. Il connaît à l'avance tes besoins et il voit à l'avance tes besoins. Dieu est omniscient. Avant même que tu aies ce besoin, lui, il a déjà pourvu à la solution. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à entrer dans cette solution. Et c'est là où justement, beaucoup de chrétiens ont un problème. Beaucoup d'enfants de Dieu ont un problème. Avant même que tu aies ce besoin, il avait déjà vu est pourvu à la solution. C'est exactement ce qui s'est passé pour Abraham. Dieu savait, enfin, normalement, il savait qu'Abraham allait obéir. Abraham a obéi, et Dieu lui dit, non, attends. Abraham détache son fils, et d'un seul coup, comme par hasard, il y avait un animal qui était coincé, tout prêt à cueillir, qui allait servir de sacrifice. Dieu n'est pas surpris par tes besoins. Il n'est pas surpris par nos besoins. Il n'est jamais surpris par nos besoins. Quand il y a quelque chose qui sera... Ça nous arrive à tous de dire « Oh, j'avais prévu tel budget pour la famille, pour telle ou telle chose, et d'un seul coup, il tombe ça et ça en plus. Oh, je n'avais pas prévu. » Bon, tu fais un effort, mais si tu marches dans la foi, tu verras que le mois suivant, ou rapidement, ou même le jour même, d'un seul coup, il y a une autre entrée d'argent que tu n'attendais pas qui va rentrer. Et ça, c'est comme ça que ça doit se produire. C'est comme ça que ça doit se produire. Si tu apprends à vivre avec le Seigneur, c'est comme ça que ça doit se produire. Maintenant, on va voir, il va falloir se constituer une base dans laquelle on est dans la volonté de Dieu au niveau de nos finances. Parce que ça aussi, on va en parler, il y a différentes choses. Là, pour l'instant, on donne des généralités sur les finances. Et après, je vous montrerai, suivant la position où vous êtes, comment vous pouvez vous créer une plateforme pour vos finances. Et cette plateforme ne vient pas forcément du jour au lendemain. Parfois, elle prend du temps à se créer, mais c'est à nous de la créer, justement, pour que régulièrement nous puissions être pourvus et que si jamais il y a des choses supplémentaires qui viennent à notre rencontre, eh bien à ce moment-là, nous puissions voir la provision de Dieu. Alors maintenant, on va voir un petit peu la mentalité de Dieu et dans la mentalité de Dieu au niveau des finances. Finalement, qui est Dieu? Quelle est la mentalité de Dieu par rapport aux finances? Parce que c'est bien de dire « nous sommes les enfants de Dieu », mais en général, l'enfant doit ressembler à qui? Il doit ressembler à son père, me semble-t-il. Et là aussi, alors c'est toujours étonnant de voir certains chrétiens qui prient. Oui, Seigneur, nous sommes tes enfants et nous crions famine. Là, il y a un contraste quelque part, je trouve. Il y a franchement un contraste parfois parmi les enfants de Dieu. Où les gens, des fois, les écoutez prier, ils prient d'une certaine façon, mais finalement, on a l'impression qu'ils ne croient pas du tout dans ce qu'ils prient ou dans ce qu'ils confessent. Si tu confesses que tu es enfant de Dieu, tu dois ressembler à ton père. Et l'important, c'est d'étudier le caractère de ton Père Céleste et que ce caractère du Père Céleste reflète. C'est la même chose. On peut parler de sous, mais on peut parler de guérison divine, donc de maladie. On peut parler de tout un tas de choses. Si on étudie qui est Dieu et qu'on médite sur qui est Dieu, normalement, il y a quelque chose qui doit refléter sur nous. Ça, c'est normal. Ça doit être la vie chrétienne normale. Que Dieu puisse refléter ce qu'il est dans son caractère, dans sa pensée sur nous. Puisque la Bible nous dit que nous avons la pensée de Christ, je vous le rappelle. Par contre, ça met du temps, nous. Ça nous met du temps à nous de changer nos façons de penser. C'est ça le problème. On va regarder la mentalité d'abord de Jésus par rapport aux finances. Parce que très souvent, quand on parle de prospérité, là, il y a une levée de bouclier. Et je vous ai dit, moi c'est très clair, j'ai ma position par rapport à la prospérité. J'enseigne la prospérité, je continuerai à enseigner la prospérité pour différentes raisons, critiques ou pas critiques. Il y a des gens qui critiquent, peu importe. Moi, j'enseigne la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous ont beaucoup critiqués, qui m'ont critiqué beaucoup en tant que pasteur au niveau de l'Église, mais qui aujourd'hui tirent la langue, comme on dit si bien, parce qu'ils voient que notre Église est prospère. Et elle est prospère parce que les gens ont prospéré, parce qu'on a enseigné la prospérité. Et ça fait plus de 6 ans qu'on a enseigné la prospérité. Et je peux vous dire que les premières années où on a enseigné la prospérité, on vivait avec des trous dans les poches, entre guillemets. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne pourrais pas raconter certaines choses intimes de l'Église, mais je peux vous dire une chose. Cet enseignement que nous avons enseigné ici au Burundi, ça n'a pas été attrapé du jour au lendemain, ça n'a pas été compris du jour au lendemain parmi un certain nombre de personnes. Et nous avons vécu, nous, en tant que ministère, des moments extrêmement difficiles au niveau finance. Mais le fait de donner le message qui était là, je pourrais vous raconter des dizaines, voire des centaines d'expériences au niveau de comment Dieu a pourvu. D'une façon étonnante, miraculeuse. Ils mettaient les bonnes personnes au bon moment. Puis ces personnes-là sont parties, certaines, bon, parce qu'elles habitaient à l'étranger ou parce que pour différentes raisons, etc. Mais Dieu les avait placées au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose, c'est-à-dire à donner là où il fallait donner au bon moment pour combler les trous qui étaient là. Et ça fonctionne comme ça, en tout cas au début. Bon, je vous expliquerai aussi certains principes, parce que certains parmi vous, vous êtes encore dans des situations difficiles. Et je vous montrerai, si vous pratiquez la parole de Dieu, comment sortir de ces situations difficiles pour pouvoir justement vous créer une plateforme où votre prospérité pourra couler. Au début, ça va couler doucement. Et après, si vous persévérez, vous allez voir vraiment les fruits de la parole de Dieu. Mais souvent, quand on parle du message de la prospérité, il y a toute une levée de bouclier en disant « Ah là là, oui, ces gens qui prêchent l'argent. » Souvent, plaf, là, on lève le bouclier. Non, non, ces gens, ils pensent qu'à l'argent, ils prêchent que l'argent, etc., etc. Le problème des gens qui raisonnent comme ça, et qui vous le diront d'ailleurs, et qui certainement, à certaines personnes, vous avez entendu ces choses, je peux vous dire une chose, le long du chemin, si vous faites 5-6 ans, vous allez voir, même plus des fois, que vous pratiquez certains principes de la parole de Dieu, eux, ils seront assis toujours, pendant toutes ces années, sur leur chaise, ils seront là en train de vous critiquer, mais au bout d'un moment, ils vont commencer à tirer la langue en disant « Moi là-dedans, finalement, je reste toujours dans ma condition, et puis finalement, lui ou elle a avancé. » Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment l'attitude qui est mauvaise parmi certains chrétiens. Quand je ne connais pas quelque chose, j'ai deux attitudes possibles. La première, c'est de me dire « Est-ce que c'est scripturaire ?» Si j'entends parler de quelque chose, d'un enseignement, la question que je dois me poser, c'est « Est-ce que c'est scripturaire ?» Si honnêtement, devant la parole de Dieu, et vraiment sincèrement devant mon cœur, quand je prie, si c'est pas scripturaire, je peux dire non, je ne peux pas accepter ça. Ça, non, non, je peux pas accepter ça parce que la parole de Dieu dit le contraire. Ou la parole de Dieu dit que ceci, dit que cela, etc. Par contre, si c'est scripturaire, mais que je ne suis pas dans cette dimension, là, c'est à moi de changer. C'est à moi de changer ma mentalité. C'est à moi de dire non. À ce moment-là, pourquoi donc je ne vis pas cette dimension dans ma vie spirituelle? Je dois me poser cette question. Vous savez, personne que vous verrez d'avancer dans le Seigneur n'a avancé en un seul jour. Ça se passe par étapes. Il y a des dimensions de la nature de Dieu, du caractère de Dieu qui va t'être révélé parce que tu as soif de connaître ça. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui te donne une paix extraordinaire, certaines expériences dans le Saint-Esprit, etc. Ce sont des choses que tu peux connaître, seulement si tu as soif de les connaître. Et dans la prospérité, il y a des gens, directement, ils lèvent les boucliers en disant « Non, 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 non. Bon, ok, non, 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 d'accord, mais c'est toi qui tireras la langue. » Et il y a beaucoup de pasteurs qui tirent la langue, parce qu'ils sont là, ils sont complètement étranglés avec des dettes, ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne savent pas comment faire, et la seule solution qu'ils voient, c'est aller sur Internet pour aller demander de l'aide parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer de leur église. Ou ils sont tout le temps obligés d'aller voir des gens de leur église en leur disant « Tu vois, ce mois-ci, on s'en sort pas, est-ce que tu peux pas donner de l'argent à l'église ?» parce que, etc. Et en fait, ils sont mendiants eux-mêmes. Et je suis désolé de le dire, un serviteur de Dieu ne doit pas être un mendiant. C'est déshonorant pour un serviteur de Dieu d'être un mendiant. Tu peux avoir des situations difficiles quand tu commences dans le ministère, ça c'est tout à fait normal. Je vous ai expliqué qu'à partir du moment où quelqu'un est dans le ministère, souvent et quasiment tout le temps, il va y avoir une chute de ses rentrées financières. C'est normal, il n'a plus de boulot pour pourvoir à ça. Et quand il commence une œuvre, l'œuvre va avoir du mal à la soutenir, ce qui est tout à fait normal. Par contre, s'il est dans la volonté de Dieu, il va avoir quelques moments difficiles, ce qui est tout à fait normal. Ça peut être parfois quelques années, tant que ce n'est pas quelques dizaines d'années ou quelques siècles, ça va. Mais il aura des moments difficiles, c'est normal. Et quand l'œuvre va prospérer, au bout d'un moment, il va pouvoir manger certains fruits, c'est-à-dire que l'œuvre va pouvoir subvenir aussi à ses besoins en tant que serviteur de Dieu. Et ça, c'est normal. La Bible nous le dit, que celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Ça, c'est scripturaire. D'accord ? Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent manger ce qu'ils n'ont pas semé. Et ça, c'est un grave problème. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette mentalité-là, et malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont cette mentalité-là. Ils veulent que les autres... Par exemple, il y a des gens, je vous dis, même des gens qui sont connus malheureusement internationalement, parfois, ils disent, et ça c'est une perversion avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, ils disent, oui, vous pouvez m'envoyer vos dîmes. Vous savez, à certains chrétiens, ils mettent par exemple, c'est des gens qui ont des sites internet ou des trucs, ils disent, envoyez vos dîmes au site internet. Non. Nous verrons que la dîme appartient à l'église. C'est là où tu vas, là où tu te reconnais en tant que membre dans une église, impliqué dans une vision, où tu donnes ta dîme. Mais je suis désolé, tu n'as pas à donner ta dîme à un évangéliste, tu lui fais une offrande si tu veux, mais tu ne lui donnes pas ta dîme. C'est pas scripturaire. C'est pas scripturaire. Et il y a des gens partout dans le monde, ils veulent manger ce qu'ils n'ont pas semé. Et ça, c'est pas un principe biblique. Le vrai principe biblique, c'est de récolter ce que toi, tu as semé, à la sueur de ton front. Il faut être clair. Dieu fait prospérer l'œuvre de tes mains, que tu sois un laïc ou que tu sois dans le ministère. Ça, c'est scripturaire. Et Jésus fonctionnait comme ça. Donc là, aujourd'hui, on va voir, on va répondre à cette question parce que c'est une question que peut-être vous avez. D'autres, on vous la pose régulièrement.
on vous dit, mais de toute façon, Jésus était pauvre. Donc, comme Jésus était pauvre, nous devons être des disciples du maître, donc nous devons être pauvres. Bon, on va voir si Jésus était pauvre, après tout. Hein. On va étudier ça. Alors,
d'abord, il y a beaucoup d'idées préconçues sur Jésus et sur son ministère aussi. Et on va voir un certain nombre de passages qui vont nous montrer des choses sur le Seigneur. Ok. D'abord, on va revoir Luc chapitre 6. Comme ça, ça va vous redonner dans vos notes un minimum de choses. Vous savez, on n'a pas besoin de convaincre les gens dans le sens où vous aurez souvent des discussions sur ce sujet. Parce que, vous savez, le diable a mis une telle mentalité dans le corps de Christ que c'est ce genre de truc, c'est difficile à arracher. Maintenant, je vous ai dit, il y a un autre excès où les chrétiens parlent que d'argent, veulent prospérer pour montrer qu'ils venaient à l'église avec leur dernière bagnole, montrer qu'ils ont acheté une Mercedes. On n'en a rien à faire de ça. Ça, franchement, c'est vraiment pervertir le message de la prospérité. Et franchement, ça, je suis contre à 100%. Et je vous ai dit, même un serviteur de Dieu, il doit savoir se tenir dans sa prospérité. Qu'il ait une certaine prospérité, oui. Qu'il ait une trop superbe prospérité, non. Personnellement, je suis contre. Même les serviteurs de Dieu internationaux, personnellement, je suis contre. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça amène certaines critiques dans le corps de Christ. Et d'autre part, je pense qu'un homme est pourvu, hein, s'il a 2 ou 3 maisons, ça lui suffit largement, il n'en a pas besoin de 5 ou 6. D'accord ? Et il n'a pas besoin de 6 ou 7 voitures. Je pense qu'il faut un équilibre. C'est normal, si tu es serviteur de Dieu, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il faut un minimum de choses, on est d'accord ? Si t'es prospère, t'es prospère. Maintenant, si t'es businessman, c'est normal que tu développes ton business. Et là, tu peux le développer à l'extrême. Ça, d'accord. Et il y a des businessmen, ils donnent plus la dîme de leurs revenus. Il y a des businessmen qui sont engagés à donner 50% ou même plus encore. Certains donnent jusqu'à 70% de leurs revenus au Seigneur. Ce qu'ils disent, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai toutes les maisons qu'il me faut, j'ai les voitures qu'il me faut, j'ai mon compte en banque qui est rempli, je vide mes rentes, entre guillemets, etc., etc. Je continue à faire mon business, mais ça coule tellement que je suis dans la surabondance. Donc finalement, donner ma dîme, ça n'a aucun sens. Je donne bien plus que ma dîme. Et ça, c'est bon, c'est excellent. Si c'est ça son objectif, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ça, c'est bien, parce que tu as compris ton rôle. Mais que quelqu'un, et particulièrement un serviteur de Dieu, soit trop prospère, je pense que ça apporte un certain nombre de blâmes sur le corps de Christ. Qu'il redonne dans d'autres ministères, ou qu'il redonne dans son ministère pour plus peut-être développer certains départements. Ça oui, d'accord. Mais ça sert à rien qu'il ait des millions et des millions de dollars sur un compte en banque. Ça sert à quoi ? Pour que ça dorme ? Le jour où il va mourir, bon, ça lui servira pas au ciel. Hein. Et nous le savons. Il faut être clair. Non, mais il faut être clair là-dessus. L'argent est fait pour être utilisé pour le royaume de Dieu tant que nous sommes sur cette terre. Le jour où tu pars, c'est fini. Maintenant, tu laisses un héritage à tes enfants. Oui, c'est bien. Mais eux aussi, il faut qu'ils sachent gérer les choses. Sinon, ça pose des problèmes. Luc 6, verset 20, nous l'avions déjà lu, ce passage. Et Jésus dit alors, il leva les yeux sur ses disciples, « Heureux, vous les pauvres !» Donc nous avons remarqué d'abord que Jésus dit « vous les pauvres », il ne dit pas « nous les pauvres ». Ça, c'est un verset qui nous montre que Jésus ne se considérait pas comme pauvre. Numéro 1. Jean 12, verset 8, je vais vous donner un certain nombre de choses parce que vous avez besoin d'un certain nombre de versets bibliques qui vous permettent aussi pour vous-même de vous faire une idée sur la chose, ce qui est normal, parce que souvent c'est des idées préconçues. Donc Jean 12. Verset 8, Jésus dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Donc, si Jésus se considérait comme pauvre, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire qu'il se serait inclus en disant, vous nous avez, nous les pauvres. Non, Jésus ne se considérait pas comme pauvre. Parce que pauvreté, c'est la destitution. Jésus ne se sentait pas être destitué. Jésus ne se sentait pas dans la faiblesse. Jean 12, verset 8. Jésus ne se sentait pas comme un indigent. Il n'avait pas besoin d'aller à la mairie chercher une attestation d'indigence. Je vous assure, quand je vois des chrétiens chercher des attestations d'indigence, ça me fait mal au cœur. Je vous assure. Des fois, ça me fait mal. Franchement, ça me fait mal. Parce que je me dis quand même, un enfant de Dieu qui est là, en train d'aller chercher une attestation d'indigence parce qu'il ne peut pas payer quelques dollars pour aller payer son école ou quoi que ce soit, franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Il faut que ça change et ça va changer. Ça va changer si nous jouons notre rôle en tant qu'Église. Et ça doit changer. Ça doit changer parce que ça, c'est pas une condition normale. Et dans les Églises, il y a beaucoup de gens qui sont indigents aujourd'hui. Après 10 ans de guerre civile, c'est ce que nous avons. Nous avons beaucoup d'indigents dans les Églises. Beaucoup de gens qui n'ont rien. Qui sont même orphelins, à charge d'enfants, de frères et sœurs, etc., etc. Et nous en avons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y en aura d'autres parce que nous savons que le sida fait des ravages et qu'il y a des conséquences aussi. et que dans quelques années, il y a un bon nombre de gens qui vont perdre leurs parents. Nous le savons. C'est pour ça que nous avons notre rôle à jouer. Nous qui sommes enseignés, nous avons notre rôle à jouer. Et c'est normal. Maintenant, ne pas faire n'importe quoi aussi, c'est notre rôle. Mais franchement, aller voir un chrétien qui est complètement indigent et chercher une attestation d'indigence et vivre comme ça, personnellement, moi, des fois, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis quand même. Mais je crois que le corps de Christ a un grand rôle à jouer dans ce domaine-là. Grand rôle à jouer dans ce domaine-là. Et nous avons les clés du royaume, justement. Alors, d'abord, il faut être clair par rapport à certaines choses. À propos de la naissance de Jésus. Alors, vous vous rappelez que Jésus est né dans une étable. Parce que souvent, on va vous le dire, ça. Mais pourquoi est-ce que Jésus est né dans une étable? Est-ce que c'est parce que Marie et Joseph n'avaient pas d'argent pour payer une chambre d'hôtel? Est-ce que c'est la raison? Non. C'est parce qu'il n'y avait pas de place. D'accord? Jésus est né dans une étable, non pas parce que Marie et Joseph n'avaient pas d'argent, mais parce qu'il n'y avait pas de place. Pour différentes raisons. Il y a des recensements, il y avait tout un tas de mouvements de population, donc évidemment, on était un peu bloqués. Mais en aucun cas, la Bible nous dit que Marie et Joseph n'avaient pas d'argent pour payer une chambre et qu'ils ont été mendiés auprès de l'hôtelier ou de l'hôtelière en disant « voilà, donne-nous une chambre, mais on n'a pas d'argent pour payer ». Et le gars n'a pas dit « non, je suis désolé, vous n'avez pas d'argent, donc je vous mets dans l'étable ». Bon, ça c'est déjà une petite parenthèse, parce que souvent, vous savez, on dépeint Jésus en étant né dans une mangeoire. Bon, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'était pas parce que ses parents n'avaient pas d'argent. Bon, lorsque Jésus va naître, c'est assez intéressant. Matthieu 2, verset 11. Matthieu 2, verset 11. Il est dit, en parlant des mages, « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur chiffon et leur papier et lui offrirent en présent. » Vous avez ça dans vos Bibles? Non, pas tout à fait. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ah, trésor. Waouh. Et ce trésor était quoi? Il y avait de l'or. Ah bon? Voyons, pour un pauvre, Jésus, il était pas mal. Il est à peine né et d'un seul coup, on lui offre quoi? De l'or. De l'encens et de la myrrhe, donc des parfums de grand prix, oui, directement. Il me semble que cet or a dû servir à quelque chose. On ne sait pas ce que ces trésors sont devenus, mais apparemment déjà, les parents de Jésus, ils étaient bien juste après cette visite, n'est-ce pas? Ils étaient bien, non? Pour un pauvre et une famille de pauvres, c'est pas mal quand même. Les gens qui viennent de je ne sais combien de centaines de kilomètres, certainement que les mages étaient envoyés par Satan, non? Qu'est-ce que vous en pensez, non? Pas vraiment, non? Surnaturellement. Vous voyez pas ici une provision surnaturelle, ici? Dieu dirige ces gens-là, qui vraiment avaient... Alors, il y a beaucoup de discussions à propos des mages, on pourrait en parler. C'était des gens qui étudiaient certaines choses au niveau des étoiles, etc. Je pourrais vous montrer, d'ailleurs, un livre là-dessus, un ou deux livres à la maison, qui sont assez intéressants. Dans les étoiles, il y a le message du salut, d'une façon étonnante. Il y a le message du salut qui était prophétisé. Et dans les temps anciens, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne du ciel et qui se fasse homme et qui viendrait par une vierge. Et qui écraserait aussi un certain scorpion. Etc, etc. Il y a tout dans les étoiles, dans les signes du zodiaque. Ça a été perverti d'ailleurs, les signes du zodiaque. Vous savez que les gens cherchent. Et Dieu a interdit de tirer des présages à partir des astres. Ça s'appelle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les signes du zodiaque, l'astrologie. Et tout ça, évidemment, ce sont des choses qui ont été perverties par le diable. Mais Dieu a mis dans le ciel, au travers des signes du zodiaque, le message de l'évangile. Quand on étudie cela, c'est assez intéressant. Il y a toute une étude à faire là-dessus, qui est assez intéressante. Mais certains, il faudrait suffisamment d'informations pour ce genre de choses, que certains vous y êtes intéressés, d'autres vous y êtes pas trop intéressés, donc ça serait un peu difficile de faire un cours directement. Mais sachez que dans les étoiles, il y a le message du salut qui était prophétisé. C'était un signe. Et ces gens-là, apparemment, observaient les étoiles. Pourquoi il y a eu cette étoile qu'ils ont vue, qu'ils ont suivie, etc. Ça, par contre, c'est un mystère. Est-ce que Dieu leur avait révélé des choses? Certainement au départ. Mais ces gens-là étaient très riches. Ces gens-là étaient très riches. Ils sont venus apporter des trésors. Ils sont venus apporter des trésors. Vivant certainement dans des endroits reculés d'Arabie. Mais ils sont venus avec des trésors, ces gens-là. C'était pas n'importe qui. C'était pas des travailleurs simples, ces gens-là. C'était pas des grooms, c'était pas des veilleurs. Mais c'était des gens qui étaient de haute dignité. Ils sont venus voir, ils ont même été reçus par le roi. Et je pense pas que quelqu'un qui est salement habillé peut être reçu par un roi comme ça, pas du tout. Ces gens-là étaient venus, ils étaient venus avec de grandes richesses. Donc la naissance de Christ n'a pas été entourée de pauvreté, loin de là. Et rappelez-vous, c'est parce qu'il n'y avait pas de place que Marie donc n'a pas pu accoucher dans des conditions un peu plus correctes, dirions-nous. Mais c'est pas par manque d'argent. Donc déjà, la naissance de Christ, tout autour de la naissance de Christ, il n'y a pas de pauvreté, contrairement à ce qu'on nous a fait croire et fait avaler régulièrement. C'était plus une circonstance qui a fait que Christ soit dans une étable qu'un manque d'argent. Alors que souvent, on nous fait passer le message, les parents de Jésus étaient pauvres, Jésus est né dans la pauvreté. Désolé, le premier jour, directement, il a été largement enrichi, me semble-t-il. Et surnaturellement, surnaturellement. Les mages ont fait des centaines de kilomètres pour aller trouver le Messie. C'était un signe. C'était un signe. Et Jésus s'est retrouvé, et la famille de Jésus s'est retrouvée avec des richesses, des trésors, nous dit la Bible. Des trésors. Donc, ne considérez pas que la naissance de Jésus, ce qu'il y avait autour de la naissance de Jésus, comme ça nous est toujours montré dans les crèches, etc., ou par le monde. Vous voyez, le projecteur du monde est toujours le même, de toute façon. Le projecteur du monde est toujours le même. Alors maintenant, qu'en était-il du ministère de Jésus? Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui. Luc chapitre 8, verset 1. Donc ici, on avait 13 personnes qu'il fallait nourrir, loger, nourrir et habiller. Et comme je le dis souvent, Pierre certainement avait bon appétit. Hein. Vous savez, les pêcheurs de poissons en général, ils ont bon appétit, ces gens-là. Et certainement que Pierre ne se contentait pas d'un œuf et rien d'autre. Donc il fallait nourrir 13 personnes, loger 13 personnes, habiller 13 personnes. Donc Jésus allait de ville en ville et de village en village. La Bible nous dit dans d'autres passages qu'il a parcouru toutes les villes et tous les villages. C'était sa mission. Sa mission, c'était d'aller partout dans tout Israël. Et c'est ce que Jésus a fait. Pendant 3 ans et demi, Jésus a été dans toutes les villes et tous les villages. Et ça représente énormément de déplacements. Et je vais vous dire une chose, ce qui coûte le plus cher dans le ministère, c'est les ministères itinérants. Jésus avait un ministère itinérant, c'est ce qui coûte le plus cher. Vous le savez comme moi, quand vous mangez pas à la maison, que vous êtes obligé de vous acheter à manger un peu partout à droite et à gauche, ça vous coûte beaucoup plus cher que si vous cuisinez à la maison. Nous le savons tous. Si tu passes 15 jours en dehors de chez toi à être obligé de te nourrir à droite et à gauche parce que tu es obligé d'aller manger dans les petits restos à droite ou petits restos à gauche, ou même d'acheter de la nourriture et de faire ta propre nourriture, ça te coûte plus cher que si tu es à la maison. Ça, c'est obligatoire. Le logement aussi te coûte plus cher parce que même si tu payes un loyer mensuel, ça te coûte beaucoup moins cher que de payer des chambres ou que de payer à droite et à gauche des endroits où tu dois dormir. Parce que loger 13 personnes, je n'ai pas beaucoup de rapports où Jésus est à la belle étoile avec ses disciples en train de dormir dehors, en faisant attention. Était-il logé chez l'habitant? C'est encore à voir. Mais sachez une chose, Jésus avait des finances dans son ministère. Parce que juste après ce verset, il nous est dit « Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, donc c'était pas n'importe qui, c'était la femme de l'intendant d'Hérode, hein, trésorier national. Il tenait la grosse bourse de l'État. En tout cas, c'était sa femme. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Qui l'assistaient de leur bien. Ou, dans d'autres traductions, qui continuaient régulièrement à pourvoir à leurs besoins, à contribuer aux besoins du ministère de Jésus. Ici, dans certaines traductions, il montre une continuité dans le soutien financier. C'était pas des dames qui avaient seulement donné une fois au ministère de Jésus. dans le grec et dans différentes traductions, il est dit que c'était quelque chose qui avait été fait régulièrement. En fait, c'était des gens qui soutenaient régulièrement le ministère de Christ. Et là encore, et je le souligne souvent parce que c'est une vérité, ce sont les fruits du ministère de Christ. Ces dames qui soutenaient le ministère de Jésus, c'était des dames qui avaient été touchées par son ministère. Jésus n'avait pas été voir des dames riches en leur disant « Écoutez, mesdames, je suis complètement fauché, Pierre me fait que des histoires, il n'a pas mangé de poisson depuis 3 jours, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose pour lui donner à manger. » Nulle part vous verrez Jésus faire ça. Est-ce que vous voyez une seule fois le Seigneur en train de faire ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas là en train de mendier. Mais il est là, il fait son ministère, il est dans la volonté de Dieu, et Dieu a touché des personnes. Des personnes qui avaient soif, qui avaient la faim de Dieu, qui avaient la foi, qui ont été touchées dans leur vie personnelle. Et en retour, qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils ont soutenu l'œuvre de Dieu. Ils ont soutenu l'œuvre du ministère. Moi, j'aurais aimé d'être de ceux qui soutiennent Christ. Hein. Vous n'auriez pas aimé ça? Amen. Hein. Vous imaginez soutenir un ministère comme celui de Jésus? Quel privilège! C'était un super privilège. C'était un super privilège. Et la Bible le mentionne, justement. Donc, régulièrement, ici, ces dames soutenaient. Et c'était des dames qui avaient de l'argent, c'est clair. La femme de l'intendant du roi Hérode, l'intendant devait toucher un bon salaire. Peut-être plus qu'un bon salaire, d'ailleurs. On ne sait pas exactement. Mais peu importe s'il était honnête ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était une famille qui était riche. C'est clair. Là encore, comment est-ce que si on n'est pas pourvu, on peut soutenir le ministère? C'est pas possible. Vous voyez? Et c'est là, ça c'est vraiment un principe biblique. Donc, Jésus régulièrement. Alors, Matthieu 17 maintenant. Regardons Matthieu 17. Verset 24 à 27. Là, on a une anecdote absolument étonnante. C'est un peu étonnant. Mais en tout cas, on voit nulle part Jésus en train de mendier. Nulle part. Alors là, bon, il y a vraiment beaucoup d'interprétations qu'on pourrait donner sur ce texte. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, Matthieu 17, 24, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» Alors, c'était à l'entrée des villes. À l'entrée des villes, il y avait toujours une obligation de payer, obligatoire. Vous ne pouviez pas rentrer dans une ville sans être obligé de donner une taxe. Il y avait beaucoup d'impôts, c'est comme ça qu'ils vivaient. Peut-être qu'ils entretenaient la ville avec ça, etc. On n'a pas trop d'enseignements là-dessus. « Si, dit-il. Et quand il fut rentré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit « Simon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui prennent-ils les taxes ou un tribut ? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit « Des étrangers ». Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. » C'est-à-dire, bon, la question était simple. Jésus dit à Pierre, bon, j'ai observé la scène, Pierre, tu sais. Donc, normalement, qui perçoit les taxes? Normalement, c'est le gouvernement. Donc, les rois. À l'époque, c'était pas des gouvernements élus démocratiquement, c'était des rois. Donc, c'est le roi qui impose à ce que les étrangers payent des taxes. C'est normal. Par contre, les fils, c'est-à-dire ceux qui font partie de la famille, eux ne payent pas les taxes. Pourquoi? Parce qu'ils sont propriétaires des choses. Et Jésus disait simplement ici à Pierre, tu sais, finalement, normalement, qui est propriétaire de la terre? Qui est propriétaire de la terre? C'est Dieu, vous êtes d'accord? Il me semble bien que Dieu le Fils était là. Ok? Donc là aussi, on voit la mentalité de Jésus ici. Si Jésus s'était considéré comme pauvre et étant destitué, tout ce que vous voulez, ben Jésus aurait dit, bon, bah écoutez, on fait comme tout le monde, on est dans le lot. Ça ne veut pas dire que ce texte appuie en disant, non, les chrétiens ne doivent pas payer des impôts. Attention, hein, parce qu'il y a des gens qui ont pris ce texte en disant, Jésus dit qu'on ne doit pas payer nos impôts. Non, la Bible est claire là-dessus, ok? Mais pour que nous ne les scandalisions pas, c'est-à-dire faire qu'il y ait des histoires, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-leur un pour toi et un pour moi. Alors, un statère, ça valait 4 drachmes. Donc, c'est exactement la somme qu'il demandait. Mais ce passage est vraiment étonnant, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Jésus n'a pas pris de la bourse du ministère? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, là, on voit la provision, miracle de provision aussi. Passage étonnant qui se passe une fois dans l'Écriture. Maintenant, l'interprétation, on pourrait en donner beaucoup.
mais nous nous réserverons pour donner des interprétations à un tel passage, parce que ça peut nous amener trop loin. Il y a des gens qui ont voulu absolument interpréter certaines choses. Moi, personnellement, je suis très prudent par rapport à ça. Par contre, ce qui me montre une chose, c'est la mentalité du Seigneur. La mentalité du Seigneur. Bon, il dit, OK, on va pas être un sujet de scandale, on va leur fournir leurs sous, là, c'est pas un problème pour nous. Par contre, la mentalité, c'est nous sommes les fils, nous sommes les héritiers, tout nous appartient. Bon, et on voit que Jésus ne se considérait pas du tout comme pauvre, comme vraiment étant dans la mendicité ou quoi que ce soit. Bon, maintenant, qu'en est-il des miracles de provision? Jésus se retrouve confronté à une foule qui le suit dans son ministère. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Multiplication des pains. Matthieu 14, multiplication des pains. La première. La deuxième, vous allez la trouver dans Matthieu 15. Jésus est suivi par une immense foule de gens qui ont des besoins énormes, parce qu'ils le suivent. Jésus sait très bien d'ailleurs que dans cette foule, il y a des gens qui sont très bien, des gens qui sont très sérieux. Il y a des curieux, il y a des farceurs, il y a des voleurs, il y a tout ce que vous voulez. Vous savez, dans les grandes foules, en général, c'est ce que vous trouvez. Faut pas se faire d'illusions. Souvent, on fait beaucoup de publicité en disant « Oh, il y avait beaucoup de monde, oui, mais quel type de monde ?» Ouais, faut être clair, il faut être très clair. Vous savez, Jésus, il n'était pas dupe. C'est pas parce qu'il y avait 10 000 personnes devant lui que c'était 10 000 personnes qui étaient là, vraiment avec un cœur sincère et prêt à l'adorer. Il y avait des gens qui avaient des intérêts personnels. Oui, d'ailleurs, il a été clair plusieurs fois. Si vous lisez, à un moment, il a dit à ses disciples « Et vous voulez pas partir non plus ?» Je fais pas de recrutement. Ici, c'est pas le bureau des recrutements. On recrute pas. On n'est pas l'armée. Si vous venez, c'est parce que vous êtes attachés à moi. C'est ce que Jésus leur disait. Vous êtes scandalisés? Eh ben, allez-y. Vous pouvez partir, vous, s'il n'y a pas de problème. Non, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Ça, c'était la réaction de Pierre. Ça, c'était clair. Le cœur de Pierre était dévoilé ici. Superbe. Magnifique. Pierre, le charnel parfois, mais il avait un bon cœur. Et ça, c'est ce qui l'a sauvé, Pierre. Le charnélisme l'a amené à vivre des expériences très difficiles avec le Seigneur, mais son cœur était là, son cœur était pour le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est devenu un bon apôtre après, c'est devenu quelqu'un qui a été oint par Dieu et qui a pu faire un excellent travail dans l'Église, un excellent travail de fondation. Donc Jésus ici est confronté à quoi? Il est confronté à un certain nombre de problèmes, à des foules qui demandent et qui ont des besoins, et légitimes, nourriture, des foules qui le suivent. Jésus n'est pas en train de leur dire « Écoutez les gars, désolé, mais d'habitude, la personne qui nous envoie un chèque des États-Unis tous les mois, ben oui, d'habitude, c'est ce qu'on reçoit. Donc, j'aurais pu vous donner à manger dans ce cas-là, mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai téléphoné à la banque et la banque m'a dit que non, il n'y avait pas de chèque ce mois-ci pour nous, donc vous mangerez pas, messieurs. Tant pis pour vous. » Non, Jésus ne dépendait pas de ça. Jésus savait ce qu'il faisait. Et Jésus, quand il y avait quelque chose qui arrivait comme ça, eh bien, il faisait un miracle de provision. Je ne vois pas les pauvres faire des miracles de provision. Et en plus, si vous lisez bien ces multiplications des pains, il y a eu toujours des restes. 12 paniers, ou je ne sais plus combien, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu des paniers qui sont restés. Alors, en général, les pauvres, ils mangent tout, jusque dans les arêtes des poissons. Et même les yeux. Donc, je pense que Jésus n'avait pas la mentalité du pauvre. Étudiez bien la mentalité du pauvre. Non, Jésus savait ce qu'il faisait. Jésus savait ce qu'il faisait. Lisez l'Écriture. Alors, Jean chapitre 13. Vraiment, ceux qui dépeignent Jésus comme un pauvre, ils n'ont vraiment rien compris dans leur mentalité. Ou alors, c'est qu'ils n'ont pas vécu autour de pauvres, peut-être. Un pauvre affamé qui prend un repas. Nous avons tous été témoins de cette scène. Quelqu'un qui n'a rien mangé depuis des jours et des jours, donnez-lui une assiette qui est pleine, il va vous la vider et peut-être qu'il mangera même l'assiette. Jean chapitre 13, versets 27 à 29. Vous voyez, il y a vraiment des gens, ça me déçoit profondément, parmi des commentateurs bibliques qui parfois... Alors, bon, Jean chapitre 13, on est là, ils sont à table, c'est la dernière soirée. Nous restons dans ce mystère, pourquoi du choix de Judas pour tenir la bourse du ministère. Alors ça, par contre, ça me pose vraiment un problème de déontologie. Je ne sais pas quoi faire en commentant ce passage de ce côté-là. Pourquoi est-ce que Jésus
a donné à Judas la bourse du ministère jusqu'au dernier jour, sachant qu'il était voleur et traître. Ça, c'est toujours un dilemme, vous savez. C'est toujours un dilemme. Quand vous avez quelqu'un dans votre ministère que vous savez être pertinemment un voleur, un escroc et un traître, c'est un peu difficile de l'avoir jusqu'au dernier jour, même dans les moments difficiles en général. En général, si vous le démasquez, le premier jour vous le démasquez, vous ne lui faites pas de cadeau, vous lui dites « maintenant tu es dehors » et c'est normal. Mais je ne sais pas pourquoi Jésus a accepté ça jusqu'au bout. Je pense que Judas était complètement inexcusable. Je pense que c'est pour montrer un peu que Judas avait même la meilleure des meilleures chances et la meilleure des meilleures confiances. En général, si vous confiez votre portefeuille à quelqu'un, c'est que vous lui faites, entre guillemets, une superbe confiance, me semble-t-il. Hein ? Je pense que quand on confie de l'argent à quelqu'un, régulièrement, sur une base régulière pour gérer des besoins, ça veut dire que vraiment, cette personne, vous lui offrez votre cœur, entre guillemets. Hein. Ça veut dire que vous avez vraiment... Ok, bon. Mais là, Judas, c'était clair. Personnellement, je me pose la question encore, mais je pense que c'est vraiment pour prouver que Judas était vraiment quelqu'un de pourri jusqu'au bout et qu'il était inexcusable. Cet homme avait toutes les chances de réussir. On pourrait étudier un peu la vie et le caractère de Judas. Mais franchement, cet homme avait toutes les chances. Il avait les mêmes chances que les autres. Et encore en plus, Jésus lui faisait une confiance, non pas aveugle, parce que Jésus lui faisait une confiance volontaire, sachant que c'était un voleur. Et sachant qu'il piquait dans la caisse, ça c'est clair. Ça, Jésus le savait, et c'était pas la première fois d'ailleurs. Il savait que Judas était un voleur et qu'il piquait dans la caisse. Il devait se faire construire une maison à Kiriri, ou je ne dirais pas juste à côté d'un grand palais, mais peut-être. Alors, verset 29. « Comme Judas tenait la bourse... Quelqu'un pensait que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou donne quelque chose aux pauvres. » Bon, quand vous lisez ce passage et le contexte de ce passage, il est clair que c'est absolument étonnant de voir ça. Imaginez la scène. Il y a les 12 avec Jésus. Bon, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se dire à voix basse, très basse. Et il y en a un des disciples qui voit que Jésus est en train de parler avec Judas. Et directement, ce disciple conclut que Jésus devait être en train de lui dire quelque chose à propos de donner aux pauvres. Alors, comprenez un peu là où je veux en venir. Quand, par exemple, vous voyez deux personnes que vous connaissez très bien, des fois, avec ces personnes-là, vous pouvez leur faire juste... comme ça, et l'autre, il comprend tout à fait ce que vous voulez dire. Et d'un seul coup, vous voyez la personne faire telle et telle chose, telle action et telle action. Pourquoi ? Parce que il y a une communication au travers des yeux, au travers des gestes, etc. Parce que vous êtes habitué. Vous avez une relation habituelle, et rien que de faire un ou deux signes avec cette personne, ou si cette personne vous fait un ou deux signes, vous savez tout de suite ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Les bons gestes, etc., etc. Ça veut dire qu'il y avait une habitude relationnelle. Une habitude de faire certaines choses. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose qui n'avait pas été fait une seule fois. Si, par exemple, vous dites à quelqu'un que vous rencontrez, que vous connaissez, vous dites « Oui, tu vois, aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. On va donner aux pauvres. » Bon, donc il faut que je t'explique qu'est-ce qu'on va faire. D'abord, combien tu vas donner, comment tu vas donner, à qui tu vas donner, etc., etc. Ça demande des explications. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la personne n'est pas habituée à faire certains gestes. Là, même pas. Même pas. On voit que dans le ministère de Jésus, Jésus avait juste à faire quelques remarques ou quelques gestes et directement Judas savait « Ok, ça va, je sais ce qu'il faut faire. » Donc ça prouvait une chose, c'est que le ministère de Jésus régulièrement soutenait les pauvres. Ça c'est clair. Et quand vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas soutenir les pauvres. Parce que si votre assiette est vide, vous pouvez simplement présenter une assiette vide aux pauvres. Et vous n'allez pas beaucoup les aider. Si tu as 10 francs dans ta poche, même si tu donnes les 10 francs à un autre pauvre, ça va pas beaucoup l'aider. Donc Jésus, dans son ministère, c'est clair, il avait l'habitude, son ministère avait l'habitude de soutenir les pauvres. Ce qui veut clairement dire que le ministère de Jésus n'était pas pauvre. Les pauvres ne peuvent pas soutenir les pauvres, et nous le savons très bien. Regardons dans Jean, chapitre 12 aussi. Alors là, il y a un truc superbe aussi que j'aime. J'aime trop ce passage. Trop ce passage, c'est trop beau. Moi, je vais vous dire qui avait la mentalité du pauvre dans le ministère de Jésus. Vous allez voir dans Jean chapitre 12 et vous allez savoir qui avait la mentalité du pauvre dans le ministère de Jésus. 6 jours avant, Jean chapitre 12, et on en terminera par ce texte aujourd'hui, Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre de parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, hein, devinez qui ? Le cher Judas Iscariote. Celui qui devait le livrer dit alors, « Voilà la mentalité du pauvre. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Voilà la mentalité du pauvre. Si Jésus avait été pauvre et qu'il avait la mentalité du pauvre, quand Marie se serait approchée de lui, il lui aurait dit, « Ne fais pas ça. J'ai 300 amis qui sont dehors juste devant ta maison et qui ont faim. » Jésus aurait fait ça. Si Jésus avait eu la mentalité du pauvre, c'est ce qu'il aurait fait. Parce que rappelez-vous, la pauvreté est une mentalité. Les gens qui sont pauvres, quand vous leur parlez, s'ils vous voient gaspiller le moindre truc, qui va récupérer les sachets en plastique ? Ce sont les gens qui roulent en voiture ? Ce sont les pauvres. Vous êtes d'accord ? Le pauvre n'a pas les moyens de s'acheter le contenu, donc il récupère le conteneur vide pour le revendre et gagner un peu de sous. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je vous dis ? Et c'est normal. Pour lui, c'est normal parce que c'est un moyen pour survivre. Pas de vivre. Il y a une différence entre vivre et survivre. Le pauvre survit. C'est-à-dire qu'il essaye de trouver des moyens ou il essaye de récupérer des trucs à droite et à gauche pour survivre, pas pour vivre. Quelqu'un qui n'a pas la mentalité du pauvre, il vit correctement. Mais ceux qui récupèrent tous les trucs, tous les gens que vous verrez dans des endroits où on jette des choses ou qui essayent de prendre des choses qui n'ont pour un riche aucune valeur, ce sont les pauvres. Si Jésus avait eu la mentalité du pauvre, il aurait dit à Marie, « Arrête, s'il te plaît, ne fais pas ça, c'est un sacrilège. Vends ton parfum et ramène-moi l'argent, on va mettre ça dans le ministère et on va donner aux pauvres. » Est-ce que c'est pas vrai ce que je vous dis ? Bien sûr. Si Jésus avait la mentalité du pauvre, s'il avait eu la mentalité du pauvre, c'est ce qu'il aurait fait. Par contre, Judas avait la mentalité du pauvre. Il avait la mentalité du pauvre. Il n'avait rien compris à l'acte d'adoration de Marie et Judas avait la mentalité du pauvre. Enfin, il avait la mentalité du pauvre corrompu, lui. Hein. Il avait la mentalité du pauvre dans le sens où il disait « Non, non, faut vendre ce parfum. Comme ça, il y a de l'argent qui rentre dans la caisse. Et tout ce qui rentre dans la caisse, j'en ai, bien sûr. J'en prélève la dîme pour mon ministère personnel. Au minimum, bien sûr. » Donc, c'est Judas qui avait la mentalité du pauvre. Mais Jésus n'avait pas la mentalité du pauvre. Il disait cela, non, qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Apparemment, il prenait pas seulement la dîme, apparemment. Hein. Il prenait plus que ça, Judas. Mais Jésus lui dit, laisse-la garder. Oh là là, je sais pas comment le Seigneur a pu être aussi gentil pour lui répondre comme ça. Franchement, je sais pas comment le Seigneur a réussi à ne pas... Aïe, 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 aïe. Jésus savait qu'il volait dans la caisse. Ah oui, vraiment. Hein. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Voilà. Donc voyez ici, c'est clair, Jésus n'avait pas la mentalité du pauvre. Jésus n'était pas pauvre, Jésus ne se considérait pas comme pauvre. Vous avez une multitude d'écritures qui nous le prouvent. Maintenant, il y a des gens qui disent « Oui, mais Jésus n'a jamais eu de maison. » Oui, c'est normal, parce qu'il exerçait son ministère pendant 3 ans et demi, et il savait qu'au bout des 3 ans et demi, bye bye la terre, je retourne auprès du Père. Il le savait, ça. Donc si vous exercez un ministère, si vous allez dans un endroit pour des missions de 2 ans, qui va s'acheter une maison pour 2 ans ? Personne, tu vas pas investir pour acheter une maison si tu restes 2 ou 3 ans dans un endroit et tu le sais. C'est un investissement qui n'est pas profitable. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Revendre ta maison juste au bout de 2 ans, 3 ans ? Non. C'est pour ça que Jésus n'avait pas de maison. Si Jésus avait eu besoin d'un quartier général, il n'y aurait pas eu de problème. Il aurait pu s'installer et installer son ministère. Jesus Ministries, il aurait mis. Il n'y aurait pas eu de problème. Il aurait pu installer son ministère sans aucun problème. Et il aurait pu acheter même un plus beau palais que le palais d'Hérode. Mais ce n'était pas son objectif. Jésus n'avait pas besoin. Ce que Jésus voulait et ce dont il avait besoin, c'était de finances pour faire tourner le ministère qu'il avait, pour pouvoir aller de ville en ville, de village en village, pour pouvoir prêcher, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir délivrer les démoniaques, pour pouvoir faire des miracles à droite à gauche, et c'est tout. Et il savait qu'au bout de 3 ans et demi, il serait cloué sur une croix, pour toi et pour moi, qui ressusciterait le 3e jour, et qu'après, il retournerait auprès du Père, et que ça serait la dispensation de l'Église. Il le savait, donc il n'allait pas
faire des pieds à terre, acheter des appartements pour les louer. Ça ne l'intéressait pas. Et c'est normal. En plus, Jésus n'aurait pas eu d'héritier direct. Ok? Donc, c'est tout à fait normal que Jésus n'ait pas eu d'endroit qu'il s'est acheté pour aller installer son ministère ou faire sa maison. Donc, c'est clair. Il faut être clair là-dessus. Jésus avait un ministère, il savait qu'il allait être court sur la terre. Voilà, je vous laisse à ces quelques réflexions et étudiez bien ces passages et réfutez les contradicteurs.